Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, mais aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un héros oublié, c'est Louis Lachenel. Le 3 juin 1950, deux alpinistes français gravissent pour la première fois un sommet de plus de 8000 mètres d'altitude, l'Annapurna. L'annonce de leur exploit fait le tour du monde et Maurice Herzog attire vers lui la lumière. Louis Lachenel, son compagnon de cordée, reste dans l'ombre. Il est temps aujourd'hui de lui rendre hommage à ce guide de haute montagne surdoué. Né à Annecy en 1921, ce fils d'épicier s'ennuie ferme sur les bancs de l'école des frères quai des Cordeliers et préfère de loin escalader le Biclope, falaise calcaire toute proche, d'un peu plus de 100 mètres de haut, offrant une vue imprenable sur le lac d'Émeraude. De bonne heure, il révèle son goût du risque et sa soif d'aventure, tout en montrant des talents précoces de grimpeur. À le voir se jouer du danger avec une adresse de chat, ses copains scouts sont admiratifs. Il gravit l'une après l'autre les cimes alentours, l'alpinisme est sa passion. En 1941, il rejoint Jeunesse et Montagne, organisation créée après la défaite de juin 1940 par l'ex-armée de l'air française, dont la devise est « faire face ». Travaux agricoles, coupe de bois, fabrication de charbon, remise en état des bâtiments, il reste peu de place pour l'escalade ou le ski. La vie quotidienne est spartiate, la discipline sévère. L'esprit de camaraderie au rendez-vous, mais Louis Lachenel, qui n'a pas sa langue dans sa poche, supporte mal l'autorité des petits chefs. L'année suivante, il devient porteur breveté du club alpin français, puis sorti premier d'un stage de chef de cordée à Chamonix, fait la connaissance du grenoblois Lionel Théré. À la Libération, marié, il gagne sa vie comme moniteur dans une antenne de l'Union nationale des centres de montagne. Il effectue sa première grande course avec Lionel Théré sur la face est de l'aiguille du Moine qui surplombe la mer de glace à Chamonix. Son compagnon de cordée admire son aisance d'acrobate, puis tous deux se retrouvent au mois d'août 1946 sur la redoutable muraille de la face nord des Grandes Jorasses et gravissent en un temps record la pointe Walker. Au sommet, un violent orage les surprend. Ils tiennent bon et à partir de ce jour, une amitié sans faille unit les deux alpinistes si différents l'un de l'autre, mais qui se complètent à merveille. Au calme du solide grenoblois répond la vitalité stupéfiante de l'annécien surnommé Biscante, contraction de Biscantin, nom local du cidre nouveau dont Louis Lachenel aime remplir sa gourde. Il forme un sacré duo prêt à réaliser des exploits. Comme le Mont Cervin ou la face nord des Grandes Jorasses, celle de Légère, dans les Alpes bernoises, est aussi célèbre que mortelle. Dans les années 30, l'Ogre a ôté la vie à quantité d'escaladeurs allemands pour la plupart. En juillet 1947, Louis Lachenel et Lionel Théré décident de relever ce défi et malgré une tempête de grêle, effectuent la deuxième montée après celle de 1938. Louis Lachenel est maintenant un alpiniste reconnu. Le grimpeur le plus rapide et le plus brillant selon Lionel Théré. En 1948, il entre dans la Compagnie des Guides de Chamonix. Fondée en 1821, la plus ancienne et la plus grande compagnie des guides de haute montagne du monde. L'année suivante, à l'apogée de son art, il enchaîne les ascensions parfois en solitaire. Il est père de deux garçons, cet impatient mène sa vie au pas de course. En 1950, la Chine, devenue la République populaire, revendique le Tibet, tandis que l'Inde est indépendante depuis 3 ans. C'est le moment choisi par le roi du Népal pour ouvrir son pays, vers l'extérieur, après plus de 200 ans d'isolement. Une mission française obtient l'autorisation de traverser le royaume pour rejoindre à pied la chaîne de l'Himalaya. À sa tête, un Lyonnais de 31 ans, Maurice Herzog, résistant, diplômé d'HEC, alpiniste amateur, accompagné de 3 guides professionnels, Louis Lachenel, Lionel Théré, Gaston Rubuffa, de 2 autres alpinistes amateurs, d'un médecin, d'un cinéaste et d'un agent de liaison. 9 hommes au total, 6 tonnes de matériel porté par 150 Sherpas. Une longue marche d'approche, l'installation de camps de base, des cartes sommaires, quelques porteurs défaillants, l'équipe perd beaucoup de temps à ouvrir les pistes, à reconnaître les versants glaciaires. Mi-mai, on décide finalement de s'attaquer à la face nord de l'Annapurna, un des 14 sommets de plus de 8000 mètres recensés dans le monde. Il faut faire vite, la mousson approche. Sans oxygène, Herzog et Lachenal partent à l'assaut de la déesse des moissons. Avalanche, sérac, neige fraîche, la progression est lente. Le 3 juin, vers 6 heures du matin, ils quittent le camp à 7400 mètres. C'est l'enfer. Le vent glacial hurle aux oreilles. La respiration devient pénible. Les dernières forces s'épuisent. « On va y rester », écrit Lachenal, qui n'a pourtant peur de rien. Herzog, lui, semble illuminé. À cette altitude, l'esprit peine à se concentrer. Dans son journal personnel, Lachenal écrit avec cette franchise qui l'a toujours animé « Pour moi, je voulais redescendre, mais j'estimais que s'il continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui, et pour lui seul, que je n'ai pas fait demi-tour. » Cette marche au sommet n'était pas une affaire de prestige national, c'était une affaire de cordée. Les deux hommes atteignent ensemble le sommet, 8078 mètres, à 14 heures. Lachenal prend la photo de son compagnon tenant le drapeau national fixé à un piolet. L'image fera le tour du monde et la couverture de Paris Match. Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna. La France d'après-guerre a trouvé son héros. Mais où diable est passé Lachenal ? Flou, le cliché pris par Herzog ne pourra pas être exploité. Unis dans la souffrance, la descente est un chemin de croix. Mains et pieds gelés, atteints d'ophtalmie, ils retrouvent, non sans mal, Rubufa et Terré montés à leur secours. Tous les quatre se perdent dans le brouillard avant d'être pris dans une avalanche de poudreuse. Puis, rejoints par les deux alpinistes amateurs, la victoire de l'Annapurna est belle et bien collective. De retour au camp de base, Lachenal et Herzog sont dans un triste état. Le toubib leur fait des piqûres, des infiltrations. Sous une pluie tenace, le retour dans la vallée est interminable. Allongé sur une civière de fortune fabriquée par Terré, Lachenal souffre le martyr. Ses orteils commencent à pourrir. Le médecin coupe et soigne avec les moyens du bord. Fin juillet, Herzog et lui sont décorés de la Légion d'honneur sur leur lit d'hôpital à Paris, avant d'être reçus à l'Élysée par le président Auriol avec les autres membres de l'expédition. Amputé de tous les orteils de ses deux pieds, Louis Lachenal se désole de ne plus pouvoir affronter la haute montagne. Lui, qui ne connaissait aucune limite, doit se satisfaire à présent de donner des conférences. Malgré ses blessures, il obtient son permis de conduire et, en homme pressé, roule à tombeau ouvert aux grandes dames de sa femme et de ses copains. Mais sa passion reste plus forte que les mises en garde des médecins. Il reprend dans la douleur l'entraînement. Réalise quelques ascensions, dirige un temps l'équipe de France de ski, descente et slalom, escalade le Mont Rose, deuxième plus haut massif des Alpes après celui du Mont Blanc, avec Maurice Herzog. Pendant ces temps-là, les feux de la rente restent braqués sur ce dernier, dont le livre Annapurna 1er 8000, avec en couverture la photo de lui seul au sommet, devient un best-seller. Le 17 novembre 1955, au cours d'une descente à ski hors piste dans la vallée blanche au-dessus de Chamonix, Louis Lachenal tombe dans une crevasse et meurt sur le coup, la nuque brisée. Près de l'endroit de l'accident, deux pointes rocheuses portent le nom de cet amoureux des cimes, rieur et imprévisible, disparu à l'âge de 34 ans seulement. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces Savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.